France Culture. France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Les fractures de l'ordre international se creusent encore et le partage du monde se précise. Hier à Moscou, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont mis en scène, de façon spectaculaire, leur convergence de vues et le renforcement de leur alliance contre l'Occident, alors que Washington s'est détourné de ses alliés traditionnels, ses alliés France, Allemagne, Pologne et Royaume-Uni, dont les dirigeants sont en ce moment même à Kiev pour afficher leur soutien à Volodymyr Zelensky. Toujours pas de deal en vue, la manœuvre entreprise par Donald Trump d'amadouer le président russe, ses multiples concessions au détriment de l'Ukraine ont manifestement échoué. Le président des États-Unis prépare une offensive de charme sur un autre front. Mardi prochain, il part au Moyen-Orient pour une tournée qui le mènera en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. Tournée diplomatique ou collecte de fonds? Quelle priorité, dollars ou stratégie? Dans la tourmente de la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump, l'économie américaine vacille et quelques deals juteux, des investissements massifs aux États-Unis de la part des fonds souverains arabes feraient très bon effet, tout en réservant sa part, bien sûr, au business familial. Le premier mandat de l'homme d'affaires avait été marqué par un vrai succès politique. Les accords d'Abraham avaient instauré ou officialisé les relations entre Israël et plusieurs pays arabes. Peut-on imaginer cette fois que Riyad les rejoigne alors que Benjamin Netanyahou poursuit sa fuite en avant meurtrière à Gaza, en Cisjordanie et même en Syrie? Le premier ministre israélien a les mains libres sans le moindre effort de modération de la part de Washington, même si Donald Trump avait annoncé devant lui, sans l'en prévenir, l'ouverture de négociations avec l'Iran. Où en sont ces négociations sur le nucléaire, en plein affrontement entre l'Inde et le Pakistan, deux puissances nucléaires, ce qui alourdit encore le climat international? Ce n'est pas notre affaire, dit le vice-président J.D. Vance. À l'inverse, le secrétaire d'État Marco Rubio propose une médiation américaine. À quoi ressemble donc cette diplomatie aujourd'hui? Que faut-il attendre de la première tournée officielle du président Trump dans cette péninsule arabe où il est sûr au moins d'être applaudi? Eh bien, c'est ce que nous allons comprendre ce matin grâce à vous, Héloïse Fayet. Vous êtes chercheuse à l'Institut français des relations internationales, spécialiste reconnue des questions nucléaires. Justin Weiss, ravi de vous accueillir à nouveau, fondateur, directeur général du Forum de Paris sur la paix, et ancien directeur du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie du Quai d'Orsay. Hasni Abidi, depuis Genève, merci d'être avec nous. Vous dirigez le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Vous êtes chargé de cours à l'Université de Genève. Alain Dikoff, directeur de recherche au Centre de recherche internationale de Sciences Po. Et depuis Beyrouth, notre ami Karim Émile Bitar, professeur de relations internationales à l'Université Saint-Joseph et à Sciences Po Paris, chercheur associé à l'IRIS. Justin Weiss, le contraste entre les images du défilé militaire hier à Moscou, défilé où ont marché des militaires chinois, et en contraste, 4 mois de politique étrangère de Donald Trump, pas un seul deal avec Vladimir Poutine.
Ben oui, je crois que vous avez bien planté le décor, Christine. On est à un moment difficile à analyser de la révolution Trump, cette révolution dont on se demande si elle va être si révolutionnaire que ça, parce que sur les différents dossiers sur lesquels il avait fait des annonces, on voit que ça ne marche pas très bien. Ça marche pas très bien sur l'Ukraine notamment parce que alors qu'il avait fait des tas de en effet de concessions à Poutine et qu'il l'a énormément ménagé, Poutine ne lui cède rien. Et au contraire, on voit revenir une forme d'accord avec Zelensky, notamment au travers du deal, alors là, qui lui a été conclu sur les ressources minérales ukrainiennes. Et donc, on a l'impression de voir Trump revenir un peu plus près des habits de Biden. On le voit sur toutes les questions commerciales où ça patine, c'est-à-dire que Trump est obligé de revenir en arrière sur à peu près toutes ces décisions jusqu'à maintenant. On a l'impression mendier de la part de la Chine une négociation et être prêt à en rabattre énormément. Et puis, enfin, au Moyen-Orient, où les choses ne vont pas du tout comme il souhaitait qu'elles aillent, et où en réalité, ce voyage qui s'annonce pour la semaine prochaine ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices, et en tout cas semble réduit à une série de discussions avec les partenaires, j'ose pas dire les alliés, les partenaires les plus riches de la région, des deals sur les questions de marché militaire, sur l'IA, etc. Mais finalement, sur le plan stratégique et sur ce que Trump avait annoncé, c'est-à-dire faire la paix en Ukraine, faire la paix à Gaza et entre Israël et Palestine, ça ne fonctionne pas, ça patine, et au contraire, ça a l'air d'aller un peu à rebours de ce qu'il souhaitait. Il est de plus en plus otage de Netanyahou, on y viendra sûrement. Mais donc, on est à ce moment où, au fond, la révolution Trump ne fonctionne pas, et ce voyage s'annonce un peu comme la continuation de cette espèce de marée dans laquelle il se trouve un peu embourbé en ce moment.
Hassani Abidi, le fait que Donald Trump ait choisi Riyad, donc l'Arabie Saoudite, comme il l'avait fait lors de son premier mandat, pour la première étape de ce voyage officiel qui l'amènera aussi au Qatar et aux Émirats, quelle est, selon vous, la signification? Bon, on s'imagine, est-ce qu'il sera accueilli par une nouvelle danse du sabre? On sait qu'il aime la pompe. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que les États-Unis sous Trump ne considèrent pas finalement le Canada, qui a toujours été la première destination sur le plan traditionnel de la politique étrangère américaine, ou même un État allié, comme par exemple le Royaume-Uni ou la France. Là, le président Trump, comme lors de son premier mandat, il choisit plutôt les pays du Golfe. Il veut dire que désormais, les pays du Golfe, je les considère comme un élément central de ma politique étrangère. Deuxième élément, il veut dire que les transactions, la diplomatie transactionnelle qu'il a déjà inaugurée lors de son premier mandat, elle va être aussi un pivot de cette politique étrangère, et que finalement le pétrole contre sécurité, exactement ce qui a été fait lors de cette rencontre de Quincy entre le roi Saoud et le président Roosevelt, elle est de retour. Il va non seulement négocier la sécurité, le parapluie sécuritaire qui assure une sécurité pour les pays du Golfe avec plus d'investissements. Le deuxième élément, il s'attend à ce que ces pays du Golfe aussi investissent de manière massive et achètent aussi de l'armement américain, ce qu'il va présenter comme un succès de cette orientation stratégique de la politique étrangère américaine.
Mais Hassani, c'est une orientation qui n'a jamais été démentie par ses prédécesseurs. L'achat d'armement, le rôle stratégique de ces pays, ce qui est quand même accentué cette fois-ci, on l'a vu avec la tournée de l'un de ses fils, Eric, dans les mêmes pays que son père va visiter la semaine prochaine. Donc un nouveau golf au Qatar, une Trump Tower de 80 étages à Dubaï, des investissements à Abu Dhabi, des investissements massifs dans le fonds crypto, de crypto-monnaie familiale, dans lequel apparaît aussi, d'ailleurs, c'est intéressant, le fils Witkoff. Witkoff, donc, qui est l'envoyé spécial de Donald Trump sur tous les dossiers importants. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, cette dimension-là? Certes, c'est du transactionnel, mais ça frôle. Enfin, c'est pas que ça frôle, on est en plein conflit d'intérêts.
Oui, on peut l'évoquer comme ça, mais la dimension familiale, elle a toujours été présente. Souvenez-vous, le conseiller en chef du Moyen-Orient lors de son premier mandat était Jared Kushner. donc sans s'engendre. Et on sait très bien la participation importante de Jared Kushner dans l'élaboration de la politique étrangère, notamment lors de ce fameux séminaire de sécurité au Bahreïn. Mais en même temps, vous savez que Trump, il est conscient, il sait très bien que un mandat ne suffit pas finalement pour faire des bonnes affaires. Donc au moins, il gagnera le côté familial, parce que lors du premier mandat, on a bien vu certains États du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, ont promis énormément d'investissements. Il y avait un investissement, mais pas autant que ce qui a été prévu lors de son premier mandat. Et tous les pays du Golfe préfèrent aussi une politique d'annonce, en quelque sorte. L'Arabie Saoudite annonce tout de même 800 millions, plus de 800 millions. Les Émirats, sur 10 ans...
800 milliards, des milliards.
1,4 milliard, sauf qu'il y a une nouveauté qui est très importante pour les pays du Golfe. Les prix du pétrole se stabilisent à 60 dollars. Et à ce 60 dollars, les pays du Golfe ne sont pas en mesure de répondre à toutes les sollicitations de l'administration américaine. Donc, il doit absolument revoir un petit peu ses ambitions et parler, en quelque sorte, aussi de politique internationale, de sécurité. C'est pourquoi Mohamed Ben Salman convoque à la hâte un sommet des pays du Golfe à Riyad.
Karim Bitar, vu de Beyrouth, comment s'annonce cette tournée moyen-orientale de Donald Trump, qui en fait est toujours resté très populaire auprès de ces régimes qu'on peut quand même assez facilement qualifier d'autoritaires?
Oui, c'est assez paradoxal. 20 ans après que les États-Unis aient espéré exporter la démocratie au Proche-Orient, on a le sentiment que c'est l'autoritarisme arabe qui s'est introduit subrepticement à Washington DC, et il se retrouve dans le comportement de ces leaders du Golfe. C'est pour ça qu'il a une excellente relation avec eux. Et paradoxalement, Trump est également populaire au niveau de l'opinion publique dans la région. Il y a d'un côté ceux qui partagent sa vision du monde, sa vision identitaire. Il y a de l'autre côté tous ceux qui étaient extrêmement déçus par l'attitude de Joe Biden pendant la période de l'après 7 octobre. Donc Trump a un capital de sympathie dans la région qu'il ne faut pas négliger. Il va s'en servir comme d'habitude pour promouvoir certains grands projets économiques qui sont inextricablement liés à ses propositions politiques. Et quand je parle de projets économiques, il s'agit bien sûr d'investissements pour les États-Unis, mais aussi de family business, comme vous l'avez évoqué. Il y a déjà une entreprise saoudienne qui a investi pas moins de 2 milliards dans une entreprise fondée par Jared Kushner. En matière de technologie, d'économie, d'intelligence artificielle, les trois pays du Golfe ont des propositions très alléchantes à faire aux États-Unis. Il va sauter sur l'occasion. Par contre, je doute qu'il y ait de véritables percées politiques, même si certains médias, même en Israël, commencent à nous parler d'un revirement de Trump, d'une tentative de faire revivre les accords d'Abraham. Je pense que les conditions ne sont pas propices. Le grand changement depuis 2015, c'est l'attitude saoudienne. En 2015, ils étaient plutôt alignés sur Israël. Ils incitaient les États-Unis à mener une guerre de changement de régime, ou du moins à ne pas signer d'accord avec l'Iran. Aujourd'hui, les Saoudiens sont plutôt dans une logique de stabilisation, notamment après l'accord négocié par les Chinois, l'accord irano-saoudien. Le prince héritier en Arabie Saoudite est très axé sur la sécurité de la région, un cessez-le-feu avec les Houthis, le développement économique. Il ne cherche plus nécessairement à faire tomber le régime des Mollahs.
Et l'objectif premier de Mohamed Ben Salman, c'est d'obtenir de Washington un accord sur le nucléaire civil, parce qu'il y a de l'uranium en Arabie Saoudite, mais il s'agit en fait de valider l'accès au processus de fabrication d'une énergie nucléaire dans le royaume.
Tout à fait, c'est une vieille ambition israélienne. Ce qui est nouveau cette semaine, ce qu'a révélé Reuters il y a 48 heures, c'est que les États-Unis ne conditionnent plus ce feu vert au nucléaire civil saoudien à un processus de normalisation avec Israël. On pensait préalablement que c'était un prérequis. Trump semble avoir pris acte du fait que les dirigeants saoudiens ont dit très clairement que le processus de normalisation, on ne pourrait pas revenir à ces accords d'Abraham tant qu'il n'y aurait pas de reconnaissance d'un État palestinien, fût-ce à minima. Et comme les autorités israéliennes sont radicalement dans un autre état d'esprit, Trump pourrait être tenté d'aller de l'avant et de faire ses concessions et ses deals économiques, militaires et technologiques avec les Saoudiens, même s'ils ne vont pas vers une reconnaissance d'Israël. Et ce qui contribue à cela, c'est l'opinion publique internationale. Aujourd'hui, les critiques d'Israël ne viennent plus des milieux de la gauche radicale, c'est vraiment l'establishment, le Financial Times, l'Economist, ce matin Thomas Friedman du New York Times qui dit qu'Israël désormais représente une menace pour les intérêts stratégiques des États-Unis, Christian Amanpour sur CNN qui a fait un remarquable travail ces derniers mois. Donc l'opinion publique est en train de basculer, y compris au sein de l'establishment, de la communauté juive américaine, britannique, même en France on commence à entendre quelques voix tardivement, mais il y a le sentiment que Israël est allé trop loin et que Trump ne peut plus s'aligner inconditionnellement sur M. Netanyahou, même s'il ne va bien évidemment pas rompre avec la politique historique des États-Unis.
Précisément, Alain Dikoff, comment expliquez-vous cette carte blanche que Washington accorde désormais à Benjamin Netanyahou, dont on voit l'escalade meurtrière, que ce soit à Gaza ou dans les territoires occupés, où semble-t-il, en ce moment même, l'armée israélienne procéderait à un déplacement massif de Palestiniens en les regroupant, en les sortant en quelque sorte de leur camp ou des villages où ils s'étaient installés.
Écoutez, ce qui est frappant, c'est vraiment que les États-Unis ont abandonné toute ambition de véritablement proposer une issue diplomatique, non seulement à la guerre, mais même antérieurement. En réalité, bon, l'administration Biden était elle-même, dans le fond, très timide. La différence avec Trump, c'est qu'il est, comme à son habitude, beaucoup plus franc et clair dans son positionnement, qui est un positionnement, en effet, de tout simplement de laisser les mains libres au gouvernement Netanyahou pour mener, sur le plan en tous les cas militaire, la guerre contre les Palestiniens comme Israël entend le mener, sans lui mettre finalement de barrières, quelles qu'elles soient, pour le moment. En même temps, ce qui est aussi malgré tout à relever, c'est que dans la reprise de dialogue entre les États-Unis et l'Iran, les Israéliens n'étaient pas dans la boucle. Donc il y a en même temps un sentiment qui est en fait partagé. D'un côté, on laisse les Iraniens mener les choses sur le terrain comme ils l'entendent, mais d'un autre côté, on ne considère pas digne d'intérêt de leur signaler qu'on reprend des négociations avec les Iraniens, alors qu'évidemment c'était quand même quelque chose d'important, même si peut-être l'issue sera relativement limitée. Et en même temps, on voit des idées lancées comme ça totalement abruptement par Trump, comme évidemment cette fameuse idée entre guillemets de Riviera de Gaza, alors qui quelque part paraît complètement déconnecté, mais qui du réel, mais qui en même temps signale un tout petit peu que dans le fond on va fermer les yeux sur les projets israéliens, en effet, de regroupement de la population palestinienne civile au sud de la bande, dans la perspective éventuelle d'une émigration entre guillemets volontaire dont on ne connaît pas du tout les contours, mais qui signale quand même un projet qui est le projet, en effet, de cantonner la population sur un espace de plus en plus réduit et le moment venu de lui proposer, encore une fois, on ne sait pas comment, des plans d'émigration vers des pays voisins qui n'en veulent pas, par ailleurs. Donc, il y a quand même, en même temps, une sorte de côté un tout petit peu délirant dans ce type de proposition.
Néanmoins, Alain Dikoff, on voit que Benjamin Netanyahou, qui vient de procéder à un appel des réservistes pour renforcer son armée, continue de mener une sorte de guerre de procuration contre l'Iran. en dépit des négociations ouvertes par l'administration Trump avec le régime de Téhéran, donc évidemment toujours contre le Hamas, mais aussi au Sud-Liban contre le Hezbollah, et en Syrie, où véritablement les Israéliens ont non seulement étendu leur zone du Golan, mais entrepris de détruire entièrement les infrastructures militaires.
Alors, je pense que le volet syrien est un peu particulier. Pour moi, il s'inscrit dans la stratégie israélienne qui n'est pas non plus toute récente de d'emprise, surtout évidemment après la prise du pouvoir de Ahmed al-Shara et donc de vouloir sécuriser au maximum la frontière autour du Golan, quitte évidemment à empiéter davantage sur la Syrie, sur le territoire souverain syrien. Mais il y a aussi un autre front, en fait, qu'il faut évoquer, où là, évidemment, la dimension iranienne, à mon avis, en tous les cas indirectement, est plus présente, c'est le Yémen. Parce que les faits relativement récents, quand même, de la dernière semaine, c'est que les Houthis, finalement, sont parvenus à ce qu'un de leurs missiles tombe sur Israël. Alors, évidemment, c'est parce que, visiblement, le système de sécurité israélien n'a pas été aussi performant qu'il l'avait été jusqu'à présent. Mais la riposte ne s'est pas fait attendre non plus du côté israélien. Donc, c'est plutôt, je dirais, l'Iran est un peu vraiment dans le viseur aussi à travers ce conflit au Yémen et l'intervention, je dirais, relativement répétée des outils militaires répétés des outils contre Israël avec leur missile.
Précisément, Héloïse Fayet, on a vu l'administration Trump conclure un accord avec les outils. Donc une sorte de cessez-le-feu, les Américains ne bombarderaient plus Sanaa et les installations militaires houthis. Néanmoins, les houthis continuent d'attaquer Israël. Est-ce que de la part de Washington, c'était une manière d'accélérer ou en tout cas de favoriser ces négociations sur le nucléaire? On en est, je crois, ce week-end au quatrième rencontre. Et c'est d'ailleurs Witkoff qui arrive à Moscat, la capitale du sultanat d'Oman, aujourd'hui même.
Oui, effectivement, le quatrième round de négociations devrait avoir lieu demain, donc dimanche, à Oman, avec des négociations qui avancent, qui ont lieu. C'est déjà un signal extrêmement positif. Et cela, malgré effectivement un contexte régional qui n'est pas forcément très favorable aux négociations, ou en tout cas aux discussions. En tout cas, d'un point de vue israélien, parce que comme vous le notiez, le cessez-le-feu qui a été donc trouvé entre les États-Unis et les Houthis, c'est très clair, en fait, ne concerne pas Israël. Tout simplement parce que les Houthis l'ont signalé à plusieurs reprises, leurs attaques contre Israël sont liées au fait qu'Israël continue sa guerre dans la bande de Gaza, et donc ils voient bien en fait une distinction des problématiques, avec d'un côté donc cette lutte en fait pour cette lutte globale pour la cause palestinienne au travers d'attaques contre Israël, qui d'ailleurs en fait ne font pas de dégâts majeurs, parce que si certains missiles balistiques aussi ne sont pas interceptés, c'est généralement parce que les Israéliens savent, grâce à leur système de défense antimissile, qu'il ne va pas causer de dégâts. Et puis de l'autre côté, en revanche, un accord trouvé pour l'instant avec les États-Unis, parce que la puissance de feu américaine est bien supérieure à celle des Israéliens, et puis aussi parce que le risque d'escalade est donc en fait plus élevé dans un potentiel affrontement entre les Houthis et les Américains, si par exemple il y avait eu des morts dans une frappe aussi sur un bâtiment de guerre états-unien, l'escalade aurait été beaucoup plus élevée. Mais en tout cas, ce qu'on voit aussi, et c'est Karim qui en parlait, c'est une régionalisation un petit peu des problématiques sécuritaires au Moyen-Orient. Et ça, c'est assez positif de voir en fait que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar essaient justement de limiter ce risque d'escalade. Et c'est important de noter qu'aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, est lui-même en visite dans les pays du Golfe, donc en Arabie Saoudite, et puis ensuite à Doha, donc au Qatar, pour essayer en fait justement de régler les tensions entre l'Iran et ses voisins du Golfe, avec notamment en fait des perspectives économiques, peut-être des limitations en termes de missiles balistiques iraniens, mais donc en fait il y a plusieurs canaux de négociation qui sont ouverts sur des problématiques plus larges que le strict nucléaire.
Il y a une rumeur aussi que Donald Trump, dont on sait la tension qu'il porte au vocabulaire, il aimerait renommer le golfe Persique pour l'appeler le golfe d'Arabie, et parce que ça ferait plaisir, pensent certains de ses proches, ça ferait plaisir aux interlocuteurs qui s'apprêtent à rencontrer Héloïse.
Oui, alors ça, on l'a vu aussi au Mexique. Hein, il veut renommer le golfe du Mexique, le golfe des États-Unis. Alors des réactions iraniennes qu'on peut voir, je pense que les Iraniens sont prêts à accepter de nombreuses concessions sur leur programme nucléaire, mais alors absolument pas le renommage du golfe arabo-persique ou du golfe persique en un golfe strictement arabe. Donc là, vraiment, en fait, c'est à nouveau, ça montre en fait une sorte d'amateurisme du côté américain sur les négociations sur le nucléaire, qui sont tout de même un sujet extrêmement technique. Rappelons qu'il avait fallu plusieurs années de négociations pour aboutir à l'accord sur le nucléaire iranien, donc l'accord de Vienne en juillet 2015, et qu'on ne peut pas avoir en fait du côté des Américains, effectivement Trump qui souffle le chaud et le froid. Vous avez aussi Steve Witkoff qui n'a pas de ligne véritablement claire. Certains jours, il explique qu'il faut un démantèlement total du programme nucléaire iranien, donc ce à quoi les Iraniens sont strictement opposés, car ils considèrent qu'ils ont le droit d'avoir un programme nucléaire civil, et c'est effectivement le cas sous le traité de non-prolifération nucléaire. D'autres jours, il explique qu'il faut simplement revenir aux limites d'enrichissement de l'uranium qui avaient été imposées par le JCPOA, donc accord dont Trump était, rappelons-le, sorti en mai 2018. Donc voilà, il y a une sorte de, il n'y a pas de ligne en fait claire qui se dégage de la position américaine. Alors que l'équipe iranienne est-elle extrêmement rompue justement aux négociations, ce sont des diplomates vraiment vraiment chevronnés. Et donc là, voilà, c'est quand même une position peut-être un peu plus de, pas vraiment de faiblesse, mais en tout cas, les Américains ne sont pas forcément en position de force dans ces négociations. D'où peut-être justement une sorte d'enthousiasme du côté iranien, ou en tout cas la plupart des médias iraniens considèrent que les négociations se passent bien. Ils en sont relativement satisfaits, justement parce qu'en fait ils sont peut-être plus sur un pied d'égalité qu'ils ne le pensaient avec les États-Unis.
Justin Weiss, vous qui connaissez bien les appareils diplomatiques européens, à commencer par le français, comment expliquer ce démembrement du département d'État américain, même si on pensait au départ que Marco Rubio, ministre des Affaires étrangères américain, serait en quelque sorte le professionnel, sinon l'adulte dans la salle, pour reprendre une expression du premier mandat?
Oui, ce qui est frappant, c'est que c'est le chaos. En réalité, à Washington, c'est le chaos dans la formulation de cette politique. Revenons un mois en arrière avec le fameux Signal Gate. Vous vous souvenez quand le groupe de discussion sur la messagerie Signal avait fuité parce que, par erreur, Michael Waltz, le précédent conseiller de sécurité nationale, avait inclus un journaliste dans le groupe, et on avait assisté en direct à une discussion justement sur la politique au Moyen-Orient, sur ce qui convenait de faire par rapport aux outils. Et C'est très intéressant parce que d'un côté, on avait la ligne MAGA, la ligne Trump, au fond, qui était incarnée par Vance et qui disait « c'est pas notre affaire, c'est pas à nous de faire les gendarmes du monde, c'est pas à nous de sécuriser les voies maritimes, la liberté de circulation en mer Rouge, et de toute façon, on a très peu de notre commerce qui passe par là, c'est aux Européens de le faire, c'est à eux d'aller bombarder les outils qui eux-mêmes empêchent cette circulation, et donc on n'a pas à faire ça. » Et de l'autre côté, on avait Michael Waltz, et même s'il n'est pas intervenu, donc le secrétaire d'État Marco Rubio, dont on connaît un peu les positions, qui disait tout de même, c'est nous la puissance dominante là, les outils tout de même, disons, menacent la liberté de circulation commerciale mondiale, et c'est à nous d'intervenir, etc. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il en est résulté. Il en est résulté un mois de bombardement du Yémen, enfin des installations outils, avec un coût très important de plus d'un milliard de dollars d'opérations militaires, et finalement, pour arriver à un cessez-le-feu dont Trump a dit que c'était une capitulation des Houthis, mais en fait, dont les termes sont pas très favorables aux États-Unis, puisqu'en effet, les Houthis se réservent le droit, Lindikoff l'a dit tout à l'heure, de bombarder les bateaux israéliens qui passent, qui étaient à peu près leur position de départ, c'est-à-dire tout ce qui est lié à Israël, pour lutter contre l'offensive israélienne à Gaza, est une cible légitime. Et donc, on voit qu'il y a cette oscillation entre, d'un côté, le fait d'assumer les responsabilités mondiales, ça c'est plutôt la ligne Rubio, Michael Waltz, qui est maintenant parti, mais qui l'incarnait bien, et au fond, avoir un rôle traditionnel au Moyen-Orient, et de l'autre côté, une ligne MAGA, disons, une ligne trumpienne qui consiste à en faire beaucoup moins et à finalement aller vers des deals. Et donc c'est ça qui explique une position donc beaucoup plus souple et beaucoup plus disons conciliatrice vis-à-vis des Houthis, une position vis-à-vis de l'Iran qui en effet est très confuse, comme l'a dit Héloïse, mais qui consiste quand même revenir à des positions qui n'étaient pas du tout celles que Trump avait annoncées pendant la campagne, où il voulait en gros détruire l'Iran, comme il avait dit dans une hyperbole dont il est coutumier, et donc au fond essayer de continuer ce mouvement décennal, je dirais, de retrait du Moyen-Orient, c'est-à-dire ce qui a été entamé sous Barack Obama, contrairement aux 40 années précédentes. Les États-Unis, disons, s'impliquent au Moyen-Orient vraiment depuis les années 70. Auparavant, ils n'y étaient que très peu présents. C'est vraiment dans les années 70, avec la guerre du Kippour, avec Carter et la création d'un commandement militaire, que les États-Unis s'impliquent beaucoup au Moyen-Orient. Et puis, encore plus, avec le Liban dans les années 80, la guerre du Golfe, bien sûr, puis la guerre d'Irak. Et là, on monte à une présence très, très massive. Et puis, à partir d'Obama, il y a un reflux de cette puissance américaine au Moyen-Orient, parce que les États-Unis ne tirent pas leurs ressources pétrolières du Moyen-Orient, et parce qu'il ne reste que pour, en gros, la sécurité d'Israël et assurer, l'ordre mondial. Or là, ce que Trump fait à travers, ce vers quoi il tend de façon assez chaotique, c'est de continuer son retrait, de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de conflictualité et qu'il puisse faire des deals avec les Saoudiens, les Qataris, les Émiratis. Et puis il passe par perte et profit, notamment la question palestinienne, dont on voit bien qu'il est bloqué et que c'est quelque chose qui va le gêner de plus en plus et qui va être une sorte d'épine à son côté, c'est-à-dire le fait que Netanyahou n'aille pas du tout dans le sens d'un apaisement et qu'au contraire il prépare des plans extrêmement inquiétants pour Gaza. Or ça, ce sera inacceptable par notamment les Saoudiens, et donc ça risque d'être le grain de sable dans le mécanisme, disons, à la fois de paix plus étendue et d'autre part de retrait de plus en plus grand des États-Unis. Mais tout ça se fait dans le chaos, et en particulier avec des sortes de retours de responsabilités, et Rubio est un peu l'incarnation de ça, de ce conservatisme des dernières décennies au Moyen-Orient.
Hassani Abidi, cette idée, partagez-vous cette idée en fait que la politique américaine s'agissant du Moyen-Orient aussi sans arrêt entre implication et en même temps envie de se retirer au moment où, encore une fois, et on le disait dès le début de cette conversation, les enjeux économiques et financiers prennent le dessus?
Ce qui est considéré en Europe comme un chaos dans les pays du Golfe et au Moyen-Orient de manière générale, ils parlent plutôt de pragmatisme. On parle d'un président qui est pragmatique et qui change et qui est prêt à changer de position. Et ça, c'est plutôt bien apprécié. Pourquoi on ne parle pas de chaos? Parce que du moment où, si on parle du chaos alors que la diplomatie américaine ou l'activisme diplomatique américain est le seul disponible dans un environnement où la diplomatie européenne est complètement inexistante, elle est inaudible. Donc, on s'étonne pas d'avoir finalement un monopole de la gestion en matière de politique étrangère et notamment les relations avec le Moyen-Orient plutôt du côté américain. Il faut rappeler que le président Trump avait refusé d'aider Mohamed Ben Salman lors de ses attaques qui étaient importantes contre des sites pétroliers saoudiens et américains. Il avait lui-même demandé aux Saoudiens, il a dit c'est les Houthis n'attaquent pas l'Amérique, ils attaquent plutôt l'Arabie Saoudite. Et Mohamed Ben Salman a bien appris la leçon, et c'est pourquoi il est allé directement vers les parrains, les Iraniens, ce qu'on a vu dans l'accord qui a été parrainé par les Chinois. Et en même temps, les pays du Golfe ont bien compris que le président américain, qui lui ne voulait pas négocier avec les terroristes, l'administration Biden l'a fait aussi avec les talibans, on a bien vu Adam Boller, ça a surpris les Israéliens, mais il a négocié avec Khalil Haya, qui est le chef du Hamas qui est au Qatar. Et on a bien vu aussi que les Américains négocient avec les Houthis. C'est un message clair envoyé aux Iraniens et les Iraniens aussi. Vous savez, les Houthis ne peuvent pas signer cet accord s'il n'y avait pas une bénédiction ou même un encouragement de la part des Iraniens qui veulent eux aussi ne pas torpiller aussi le processus de négociation. Donc on est face finalement à un président américain marqué par cette politique transactionnelle, une certaine incertitude, mais qui ne dérange pas autant que ça, finalement, les pays du Golfe, surtout les monarchies du Golfe, qui aujourd'hui sont les États les plus importants. C'est les poids lourds du monde arabe, après l'effacement de l'Égypte, d'autres pays arabes. Aujourd'hui, on voit bien que l'Arabie Saoudite veut garder ce leadership du monde arabe. Dernier point, qui est à mon sens aussi important, le président Trump a bien vu qu'il voulait un deal, le deal de siècle, c'est-à-dire un accord de paix entre Israël et l'Arabie Saoudite. Il voit bien que ce projet n'est pas du tout tenable, surtout dans les conditions actuelles, mais en même temps, il réalise qu'il a besoin d'un deal économique. Et ce deal économique, il est menacé par ce deal politique, par une situation entre les Israéliens et les Palestiniens, par la position des pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite. Il ne veut pas perdre le deal économique à cause de ce deal diplomatique, c'est-à-dire le grand deal, le grand prix, la normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël, et c'est pourquoi il n'hésitera pas finalement à abandonner cette trajectoire et se concentrer plutôt sur des arrangements de courte durée, mais une relation économique, stratégique avec les pays du Golfe.
Karim Bitar, on voit effectivement ce pragmatisme américain à l'œuvre, avec un style évidemment qui tranche par rapport à d'autres prédécesseurs. Néanmoins, les États-Unis doivent aussi compter avec un nouvel acteur au Moyen-Orient, qui est la Turquie. Il est question d'une prochaine visite du président turc Erdogan à Washington. Comment est-ce que la mainmise qu'Erdogan essaye d'imposer sur la Syrie peut modifier ou non le jeu américain dans la péninsule arabique?
Alors en effet, l'une des scènes les plus révélatrices de ces dernières semaines était l'entretien durant lequel M. Trump a fait un éloge très appuyé d'Erdogan devant M. Netanyahou. Et c'était vraiment cette idée qu'Erdogan est quelqu'un avec qui nous pouvons travailler, qui est aligné sur nos options stratégiques, etc. Et cette proximité affichée entre ces deux leaders va vite être testée en Syrie, parce que la Syrie est le pays aujourd'hui qui risque de poser le plus de problèmes. Il ne faut pas oublier que les guerres par procuration en Syrie sont loin d'être terminées. La Turquie a des appétits grandissants en Syrie. Elle a joué un rôle décisif dans la chute de Bachar el-Assad, et M. Erdogan se montre de plus en plus gourmand, avec une certaine sympathie de Trump qui ne se dément pas. Israël continue de bombarder la Syrie très fréquemment, alors même que les nouvelles autorités syriennes ont dit très clairement qu'elles n'étaient pas dans une logique de conflit avec Israël. Et puis, les pays du Golfe se livrent également une sorte de combat pour le contrôle économique de la nouvelle Syrie. Là, l'Arabie Saoudite a accepté de payer les arriérés de la Syrie avec la Banque mondiale, des dettes syriennes. Le Qatar va payer les salaires de la fonction publique dans la nouvelle Syrie, à l'exception du ministère de l'Intérieur et de la Défense. Donc, nous sommes toujours face à un énorme gâteau qu'il faudra se partager. Et sans modus vivendi entre toutes ces puissances régionales, les choses risquent de mal tourner. La Syrie a véritablement besoin d'un plan Marshall, car la reconstruction va coûter pas moins de 300 milliards, peut-être 400 selon la Banque mondiale.
Oui, mais...
Ça me semble véritablement prêt. Allez.
Mais cela veut dire aussi, Karim, que on l'a vu avec l'invitation du nouveau leader syrien à l'Élysée avant-hier, les Européens, Hazmi Abidi le disait, les Européens sont pratiquement absents dans ce jeu-là.
Alors, en coulisses, il y a quand même un travail assez sérieux des envoyés spéciaux français sur la Syrie. L'Europe essaie de s'impliquer parce que je pense qu'on commence à prendre conscience du risque de fragmentation de la Syrie. Il y a de nouveau un certain courant en Israël qui cherche à renouer avec la doctrine de la périphérie, c'est-à-dire à instrumentaliser les angoisses des minorités religieuses, notamment les Druzes en Syrie. Après les massacres dans les zones côtières, il y a beaucoup de gens qui commencent à se réarmer dans cette région, et une fragmentation de la Syrie aurait des conséquences très néfastes, pas seulement en Syrie, mais également au Liban, qui en souffrirait également très vite. Donc cette idée d'émergence de petits cantons communautaires dans la région, qui est en phase avec l'idéologie dominante à l'échelle mondiale, qui est un retour de l'identitarisme, des doctrines ethno-différentialistes, c'est très dangereux. Donc il faudra que les États-Unis et les puissances du Golfe parviennent à maintenir la souveraineté et l'intégrité territoriale et l'unité de la Syrie. Ce ne sera pas facile parce que, comme vous le disiez, les ambitions turques et les ambitions israéliennes sont de plus en plus en concurrence flagrante.
Précisément, Alain Dikov, ces ambitions israéliennes, vous nous l'expliquiez tout à l'heure, ne sont en rien freinées par l'administration Trump, ça on l'a compris. Néanmoins, ce qui reste l'objectif pour le gouvernement Netanyahou, c'est d'étendre et de renforcer de plus en plus son emprise et de chasser les Palestiniens. Est-ce qu'on peut imaginer que le président Trump et son entourage, qui reste quand même sensible aux arguments d'Israël, demandent à ses interlocuteurs arabes d'abriter, d'accueillir les Palestiniens, alors qu'on sait à quel point les régimes arabes y sont hostiles.
Alors, on ne peut pas exclure que pendant sa tournée dans le Golfe, Trump puisse au moins, je dirais, sonder la position de ses interlocuteurs pour voir s'ils étaient prêts à accueillir en effet des Palestiniens chez eux, ce qui en effet n'est pas du tout quelque chose à quoi ils sont favorables. Mais bon, justement, dans cette logique transactionnelle, on ne peut pas exclure le fait qu'ils le proposent. À mon avis, ça ne pourra pas aller très loin. Mais en revanche, ce qui est assez clair, c'est, encore une fois, je reviens sur cette question un peu de blanc-seing donnée par l'administration Trump, on la constate non seulement à Gaza, mais aussi, on en parle un peu moins, mais finalement en Cisjordanie. Parce qu'en Cisjordanie, il faut bien voir que depuis que l'offensive militaire israélienne a commencé après les attentats du 7 octobre 2023, il y a eu évidemment... tout s'est concentré un petit peu autour de la bande de Gaza, mais il faut bien voir que parallèlement, à bas bruit et ensuite de façon de plus en plus forte à bien des égards, l'armée intervient quotidiennement en Cisjordanie, en particulier dans les camps là aussi palestiniens, y compris des camps qui pendant longtemps n'étaient pas très remuants, je pense à Tul Karem ou d'autres camps de ce type-là. Et là aussi, avec finalement un soutien de l'administration américaine, et puis aussi, il faut bien le dire, aussi un silence des Européens. Donc il y a aussi toute cette situation qui se développe sur le terrain qui est aussi très négatif pour les Palestiniens. Et tout ça quand même dans un contexte où on a ressorti depuis quelques mois l'idée de la reconnaissance d'un État palestinien, ce qui paraît là complètement, je dirais, à bien des égards, un peu à côté de la plaque, parce que le terrain nous dit tout le contraire. C'est-à-dire que cet État déjà passablement mité avant 2023, aujourd'hui, on se demande bien où il pourrait voir le jour, avec d'un côté une bande de Gaza totalement de plus en plus contrôlée par Israël et une Cisjordanie qui l'est aussi de plus en plus, avec une autorité palestinienne totalement démunie, qui essaye malgré tout de continuer à subsister. Il y a désormais un vice-président qui pourrait peut-être prendre le relais de Mahmoud Abbas, très âgé. Mais ça semble, je dirais, complètement éthéré, encore une fois, par rapport à toutes ces réalités de terrain qui nous indiquent tout à fait autre chose.
Et c'est néanmoins le projet du président de la République qui, le mois prochain, lors d'une conférence aux Nations Unies, avec le prince héritier saoudien, affirmerait, proclamerait la reconnaissance par la France d'un État palestinien en échange, entend-on en coulisses, d'une reconnaissance d'Israël par l'Arabie saoudite. Mais là, Justin Weiss, on est, semble-t-il, comme le dit Alain Dikoff, parti dans un scénario plutôt irréaliste.
Oui, même si à chaque fois que dans l'histoire on a voulu nier la question palestinienne et dire qu'elle n'existait pas et que de toute façon c'était raté, c'était fini, la solution à deux États n'était plus viable, et c'est particulièrement le cas des années de retour de Netanyahou vers 2015, 2017, etc. Cette question a ressurgi et de façon dramatique, notamment le 7 octobre 2023. Et donc on peut se demander si en effet il n'est pas temps de montrer que en réalité il est temps de devenir sérieux et de réenvisager cette solution à deux États. Je pense que le fait que l'Arabie saoudite soit prête à travailler avec la France et ses partenaires arabes pour dans la direction de cette solution à deux États permet de rappeler ça, qu'il y a des réalités de terrain. Ce que tu es en train de faire, Netanyahou, d'imposer... Il faut bien voir le mécanisme. On est effectivement sur le terrain dans une situation mauvaise, mais sur le plan politique, on a essentiellement un Premier ministre israélien qui ne veut pas perdre le pouvoir, notamment pour des raisons personnelles, juridiques, parce que ça voudrait dire probablement aller en prison, qui par ailleurs ne veut pas contrarier l'extrême droite qui fait partie de sa coalition et qui pourrait le faire chuter et donc lui faire perdre le pouvoir, et qui donc impose à son partenaire américain une direction et surtout impose au peuple palestinien et aux Gazaouis des conditions inhumaines. Et c'est tout cet engrenage-là qui de plus en plus marginalise Trump. Et en échange, il faut qu'il y ait une sorte de rapport de force. Et donc, l'idée de faire un sommet sur la solution à deux États avec deux entités importantes comme la France et l'Arabie Saoudite aux Nations Unies, avec aussi un soutien très fort de la société civile, et le Forum de Paris sur la paix sera partie d'une manifestation de soutien à cette solution à deux États et à cette initiative-là en juin, vers la mi-juin, me semble de nature à rappeler que même si les réalités de terrain sont très sombres, l'alternative, c'est-à-dire en gros la politique de faire émigrer les millions de Gazaouis d'un côté et puis de se saisir de la Cisjordanie de l'autre, n'est pas plus viable et ne conduira qu'à davantage de violence.
Héloïse Fayet, on en revient quand même toujours à cette question qui est le rôle, ou plutôt l'absence, des Européens dans tous ces enjeux. On vient de le dire, s'agissant de la question palestinienne, même si la proposition française a le mérite d'exister, mais s'agissant des négociations sur le nucléaire iranien, dont les Européens étaient partie prenante et ont joué un rôle majeur au moment, en 2015, de la conclusion de cet accord dont Donald Trump, premier mandat, s'est retiré, Que font les Européens aujourd'hui dans les négociations qui sont à nouveau en cours, mais de façon bilatérale, États-Unis-Iran?
Oui, tout à fait. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de place pour les Européens dans ces négociations bilatérales. En revanche, les Européens, donc principalement la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, qui étaient donc les trois pays européens signataires du JCPOA, sont tout de même actifs en coulisses, avec des discussions notamment aux Nations Unies et des discussions au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique, donc le gendarme du nucléaire, qui apporte une expertise technique absolument indispensable et notamment en fait la surveillance des sites nucléaires iraniens. Le directeur de l'AIEA s'est rendu en Iran il y a quelques semaines pour rappeler justement qu'il faut absolument que l'agence soit incluse dans des discussions. Mais les Européens ont quand même plusieurs cartes à jouer. La première carte, évidemment, et la principale étant celle du snapback. Donc en fait, c'est un mécanisme économique au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies qui permettrait, s'il est activé par l'un des pays européens signataire du JCPOA, de réimplémenter les sanctions qui avaient été levées, justement, donc les sanctions onusiennes qui avaient été levées par le JCPOA donc en 2015. Et là, en fait, il y a vraiment une urgence, en fait, un contexte temporel assez particulier, étant donné que le JCPOA, donc, qui nous permet d'avoir une connaissance pas parfaite, évidemment, mais tout de même extrêmement importante sur le nucléaire iranien, expire en octobre 2025, donc dans moins de 6 mois, et la possibilité d'implémenter ce snapback également, étant donné que cela fait partie justement des clauses du JCPOA qui, à l'époque, avait été demandé par Barack Obama. Et donc en fait depuis plusieurs mois, notamment avec en juin dernier le dépôt d'une motion de censure par la France à l'encontre de l'Iran à l'AIEA, et puis surtout depuis début janvier 2025, on note vraiment des prises de parole beaucoup plus assumées de la diplomatie française vis-à-vis de la menace que représente l'Iran, notamment le président de la République Emmanuel Macron en janvier 2025. Lors de la conférence des ambassadeurs, avait déclaré que l'Iran était désormais la plus grande menace pour les forces occidentales déployées au Moyen-Orient, alors qu'avant, c'était quand même considéré que c'était les groupes terroristes, notamment Daesh. Et puis, il y a quelques jours, donc le ministre des Affaires étrangères français était à l'ONU pour des discussions sur la non-prolifération dans le monde et a fait clairement référence au snapback en expliquant que les Européens se réservaient le droit d'activer ce mécanisme si jamais les négociations entre les États-Unis et l'Iran ou dans l'idéal des négociations plus larges incluant aussi les Européens échouaient. Donc on voit bien que les Européens quand même essayent de revenir un petit peu dans le jeu, mais il y a tout de même une méfiance des Iraniens vis-à-vis du rôle de l'Europe, étant donné qu'il faut se rappeler qu'après la sortie par Donald Trump du JCPOA et donc la réimplémentation des sanctions américaines, les Européens avaient essayé de rester présents économiquement en Iran afin de maintenir justement en vie l'économie iranienne, d'investir dans cette économie. Et puis, en fait, le poids de l'extraterritorialité des sanctions américaines avait été trop fort. Et donc, les Européens étaient partis. Et ça, c'est quelque chose que les Iraniens n'ont toujours pas pardonné aux pays européens.
Oui, et on se demande d'ailleurs si M. Witkoff, qui mène les négociations et qui est donc arrivé aujourd'hui à Moscou pour de nouvelles rencontres avec la délégation iranienne demain, on se demande si M. Witkoff connaît toutes les subtilités, Loïs, que vous venez d'expliquer. Il y a en ce moment, on ne peut pas ne pas y faire allusion, même si on n'a pas le temps ce matin d'en discuter plus en profondeur. Mais il y a cet affrontement armé entre deux puissances nucléaires, l'Inde et le Pakistan. Et là, la diplomatie américaine semble partagée. Le vice-président J.D. Vance a dit hier « Ah ben non, c'est pas notre affaire ». Et au contraire, le secrétaire d'État Rubio a dit « Ah mais nous pourrions offrir notre médiation, Héloïse ».
Oui, c'est une situation assez inquiétante et évidemment, ça rappelle à quel point, en fait, être une grande puissance et surtout être une grande puissance dotée ou possédant l'arme nucléaire doit en fait provoquer un sens de responsabilité chez les dirigeants à la fois du côté américain mais aussi en Inde et au Pakistan. Et en fait, il est extrêmement regrettable que les États-Unis soient justement un peu en train de se désintéresser de toutes ces questions de régulation, de normes autour des armes nucléaires, à la fois la non-prolifération, le désarmement, la maîtrise des armements nucléaires, alors que paradoxalement, Trump a plusieurs fois appelé justement à une dénucléarisation du monde. Il n'aime pas les armes nucléaires, il le rappelle depuis plusieurs dizaines d'années. Il rêve d'un grand deal, notamment avec la Chine et la Russie, où les trois plus grandes puissances nucléaires mondiales réduiraient leurs armements nucléaires. Et puis, de l'autre côté, il faut se rappeler qu'en 2017-2018, il avait aussi expliqué que son bouton nucléaire était plus gros que celui de Kim Jong-un, donc le dirigeant nord-coréen, et qu'il n'hésiterait pas à s'en servir. Donc vraiment, dans ce contexte en fait de plus en plus instable et où les armes nucléaires ou l'attrait pour les armes nucléaires est de plus en plus important, il est crucial en fait d'avoir des dirigeants responsables qui ont une ligne cohérente, qui sont au courant de toutes les subtilités en fait de ces armes nucléaires. Alors peut-être pas directement eux, mais en tout cas leurs conseillers. Et ce n'est actuellement pas le cas aux États-Unis. Il faut se réjouir que c'est encore le cas en France et au Royaume-Uni, donc les deux puissances nucléaires de l'Europe. Mais voilà, il est vraiment nécessaire en fait qu'il y ait une responsabilisation globale afin d'éviter tout risque d'escalade involontaire.
Et d'ailleurs, dans la formulation de Marco Rubio la nuit dernière, notre heure, quand il dit aux dirigeants pakistanais et indiens, surtout, essayez d'éviter une erreur de calcul. Une erreur de calcul, Héloïse, on se dit, oui, ben c'est ça. L'erreur de calcul, c'est évidemment le doigt sur le bouton.
Oui, alors c'est pas directement forcément le doigt sur le bouton, mais en tout cas, par exemple, entre les États-Unis et la Russie, il y a des mécanismes, par exemple, de communication sécurisée, d'échange en amont d'exercices nucléaires, par exemple. Ce qui est notamment l'une des raisons pour laquelle, en fait, le conflit entre l'Ukraine et la Russie et avec indirectement l'OTAN n'a pas autant escaladé sur le plan nucléaire que ce à quoi on aurait pu s'attendre dans les premiers mois du conflit. Il y a une compréhension mutuelle entre les États-Unis et la Russie qui n'existe absolument pas entre l'Inde et le Pakistan. Les quelques mécanismes en fait de communication et d'échange sur le plan militaire sont assez fragiles. Et surtout, il y a une propagande et une désinformation qui est complètement délirante, si je puis dire, à la fois du côté indien et du côté pakistanais. Il y a quelques minutes, un dirigeant pakistanais a annoncé qu'ils allaient réunir un conseil justement au Pakistan pour discuter de leurs armes nucléaires. Ça a été démenti très rapidement ensuite. Et donc vraiment, cette désinformation, qui est d'ailleurs extrêmement nourrie par les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, des fausses images, est très dangereuse pour la stabilité stratégique. Parce que si un pays, en fait, votre voisin avec lequel vous entretenez des relations déplorables, depuis plusieurs dizaines d'années, effectivement, effectue des menaces militaires ou prononce des menaces nucléaires que vous ne comprenez pas très bien, eh bien, effectivement, vous pouvez vous sentir en danger et donc ensuite monter vous-même, en fait, dans l'échelle de l'escalade, alors que ce n'est pas forcément ce que vous vouliez faire au début. Donc vraiment, en fait, la médiation américaine, mais pour peut-être aussi chinoise ou européenne, pourrait être extrêmement, extrêmement utile pour essayer de déconflicter les tensions. Pas forcément dire qui est responsable de cette escalade, mais rappeler vraiment aux deux parties les enjeux qui sont en cours. Et puis c'est d'autant plus paradoxal du côté de J.D. Vance que sa femme elle-même est indienne. Alors peut-être qu'il ne...
qu'il ne veut pas s'attirer les foudres de ses beaux-parents.
Bon, un rappel à la raison, en tout cas. Merci. Merci à vous cinq. Merci à vous, Héloïse. Je rappelle l'entretien que vous signez sur le site du média WOM. WOM by 2050 now. Voilà, Justin Weiss, une très bonne biographie de Zbigniew Brzezinski chez Odile Jacob. Asni Abidi, vous venez de publier aux éditions Éric Bonnier Le Moyen-Orient selon Donald Trump, donc c'est tout à fait d'actualité. Alain Dikoff, vous avez signé chez Duno Israël-Palestine, une guerre sans fin. Point d'interrogation, c'était l'année dernière. Et Karim Bitar, vous avez dirigé avec Pierre Berthelot le numéro de la revue Orient Stratégique sur le Liban aux éditions L'Arbatan. Voilà, à la réalisation ce matin, je remercie Camille Mathy, à la technique Ludovic Auger. Laura Dutèche-Pérez, évidemment, m'a aidé à préparer cette émission, en même temps que Patricia Miura de la documentation de Radio France. Et voici les carnets de santé de Marina Carrère-Dancausse. Très bon week-end, à samedi prochain.